Et comme il est 8h sur Europe 1, c'est le journal très attendu de Simon Rubin. Bonjour Simon.
Bonjour Eve, bonjour à tous.
Europe 1, il est 8h, bel été.
On ne veut pas des élections anticipées. On veut que tout le monde parte d'ici. Laissez-nous tout seuls. On n'a plus besoin de vous.
Vous l'entendez, à Beyrouth, les manifestants ne veulent plus de leurs gouvernants. Dès le début de ce journal, nous serons sur place pour parler des conséquences politiques énormes de l'explosion qui a fait au moins 158 morts il y a 5 jours.
L'île Maurice, face à une catastrophe écologique, vous entendrez ses habitants qui tentent d'endiguer une marée noire sans grands moyens.
Et puis la sécheresse sévit en France, situation inquiétante notamment pour les agriculteurs.
Ça pousse plus du tout. Là, on pourrait faire des trous jusqu'à 1 mètre de profondeur, on ne trouverait pas de traces d'humidité. Le sol est complètement sec, il y a quand même des graves conséquences pour la profession agricole.
72 départements sont ce matin en alerte sécheresse. Enfin, Jean-Michel Aulas, le président de l'Olympique Lyonnais, peut jubiler. Ce matin, il savoure la qualification de son club en quart de finale de Ligue des Champions et salue son entraîneur souvent critiqué, Rudy Garcia.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Ce matin, une partie du Liban s'éveille, la colère et la rage au cœur. Dans la capitale Beyrouth, on voit encore un peu partout les traces des manifestations d'hier. Des dizaines de milliers de personnes qui ont défilé dans les rues, envahissant un ministère, affrontant les forces de l'ordre. Une colère qui ne passe pas après la mort d'au moins 158 personnes dans la double explosion du port de Beyrouth. Face à la révolte, le pouvoir en place a décidé de réagir. Le Premier ministre a proposé des élections anticipées sans pour autant convaincre les manifestants. Notre envoyé spécial, Johanna Chabas.
On ne veut pas des élections anticipées. On veut que tout le monde parte d'ici. Laissez-nous tout seuls. On n'a plus besoin de vous.
Alors que les manifestants se dispersent, Lynn, casque de protection encore sur la tête, rejoint ses amis pour débriefer. Ils débattent de la proposition du Premier ministre. Pour cette jeune étudiante en droit, des élections anticipées seraient inutiles à cause du système électoral basé sur la religion, dit-elle.
Par exemple, tu es une chrétienne orthodoxe, tu es limitée à une certaine partie géographique du Liban et tu votes à quelqu'un qui est aussi chrétien orthodoxe. C'est comme ça. Alors c'est trop limité. Ça a été fait pour que les mêmes politiciens gagnent. Ce seront les mêmes politiciens, encore, depuis 30 ans jusqu'à maintenant.
Selon elle, les élections de 2018 n'avaient d'ailleurs rien changé. À côté d'elle, Sonia et Karim. Pour eux, cette proposition du Premier ministre ressemble à un geste désespéré.
Ça ne fait rien. C'est trop tard, honnêtement. C'est trop tard. Nous ne croyons rien. Rien qu'ils disent, honnêtement. On n'a plus de confiance avec le gouvernement.
Il faut changer tout le système électoral, qu'il ne soit pas basé sur la religion ou sur les partis politiques, mais sur les besoins de la population, sur la méritocratie. C'est pour ça que nous, 109, nous voulons du 109, un nouveau pays.
Et il ne se pose même pas la question d'aller voter. Pour nous, disent-ils, la révolution ne fait que commencer. Beyrouth, Johanna Chabas, Europe 1. Aujourd'hui, à 14h, se tiendra la conférence des chefs d'État pour le Liban, organisée par la France et l'ONU. Une visioconférence qui réunira des représentants de l'Union européenne, des États-Unis, de Chine, de Russie notamment. Une réunion qui vise à accélérer l'acheminement de l'aide internationale. Jeanne Bergaoui.
Par écran interposé, les principaux partenaires du Liban auront 1h30 pour se mettre d'accord et réussir à financer les besoins d'urgence de la population. Et des fonds pour aider par exemple au déblaiement et à la sécurisation des bâtiments, à l'approvisionnement en matériel médical, à la restauration des hôpitaux, des écoles, mais aussi pour fournir une aide alimentaire immédiate alors que les Libanais craignent des pénuries. Et des besoins colossaux qu'il faut donc financer. Pour l'instant, aucun chiffre n'est avancé. L'entourage du président français n'a pas voulu donner le montant de l'aide qui pourrait être dégagée cet après-midi. Mais les Nations Unies estiment qu'il faudrait au moins 85 millions de dollars pour les seuls besoins de santé. Les futurs donateurs devront ensuite réfléchir aux mécanismes de financement. Selon l'Elysée, pas question de faire un chèque en blanc au gouvernement libanais. Emmanuel Macron le promet, cet argent n'ira pas à la corruption.
Les précisions de Jeanne Bergaoui.
Europe 1, 8h04, Simon Rubin, Eve Roger.
Dans l'océan Indien, au large de Madagascar, l'île Maurice fait face à une catastrophe écologique. Un navire pétrolier s'est échoué au large de ses côtes le 25 juillet. Et depuis, le bâtiment laisse échapper du diesel et du fioul.
Parmi les zones les plus touchées par la marée noire, le lagon de la commune de Maebourg. Et là-bas, les habitants se sont massivement mobilisés pour tenter, à leur échelle, de sauver leur île. Récit de François Villemane.
Les rochers, la plage, les crabes, les oiseaux, tout est couvert de pétrole. Une vision d'horreur pour Connie, propriétaire d'une auberge en bord de plage. Elle n'aurait jamais imaginé une telle scène. Passé le choc, l'heure était donc à l'action. Avec ses voisins et des pêcheurs locaux, elle s'est organisée.
On a enfilé des gants et des chaussures, on est rentré dans l'eau, on a enlevé avec les moyens de bord. On avait pris des seaux en plastique pour essayer de remplir les barils. Les ONG aussi qui sont venues avec des boudins en paille de canne pour essayer de protéger le rivage.
Objectif de ces boudins de fortune, contenir tant bien que mal la marée noire. Mais cette mobilisation des habitants et des ONG ne suffit pas pour effacer les traces de la catastrophe. L'annonce d'une aide envoyée par la France à l'île Maurice est une bouffée d'oxygène, notre dernière chance, dit-elle.
J'espère qu'ils trouveront une solution, que les gens pourront venir nettoyer tout ça en profondeur pour pouvoir retrouver les poissons en train de danser devant notre terrasse. On croise les doigts.
Et elle le promet, tous les matins, dès l'aube, elle sera à pied d'œuvre sur la plage pour nettoyer. Mais elle est en colère, elle ne souhaite qu'une chose, que les responsables de ce drame soient trouvés et condamnés.
François Villeman, et l'inquiétude est de plus en plus vive du côté de l'île de la Réunion voisine, où l'on redoute une arrivée de la marée noire.
Canicule et sécheresse perdurent en France. Ce matin, les températures sont déjà élevées un peu partout. L'alerte rouge canicule a même été étendue à 15 départements hier après-midi.
Et jusqu'à 42 degrés sont attendus dans les prochains jours, dans le nord de la France notamment, après un mois de juillet extrêmement sec, le plus sec depuis 60 ans même. C'est une nouvelle épreuve pour les agriculteurs. Baptiste Gatouya est céréalier dans l'Aube et vice-président des jeunes agriculteurs.
Ça pousse plus du tout. Là, on pourrait faire des trous jusqu'à un mètre de profondeur, on ne trouverait pas de traces d'humidité. Le sol est complètement sec et des restrictions sont prises sur les horaires d'arrosage, sur les cultures, voire à la suppression de l'irrigation dans les champs. Donc, on perd du chiffre d'affaires. Hein. Luzerne, l'année normale, c'est entre 14 et 16 tonnes. On va faire entre 9 et 10 tonnes cette année, quoi. On essaie de s'adapter. Alors, c'est ce qu'on leur demande depuis plusieurs années, c'est d'autoriser la création de retenues d'eau pour pouvoir stocker l'eau qui tombe l'hiver et qui partirait à la rivière ou dans la mer pour pouvoir l'utiliser l'été. C'est la canicule et voilà, c'est la répétition de ces phénomènes qui fait que c'est encore vraiment difficile à affronter et on est obligé de taper dans les stocks qui étaient prévus pour nourrir les bêtes cet hiver. Il y a quand même des graves conséquences pour la profession agricole.
Propos recueillis par Caroline Baudry et ce matin, 72 départements sont en alerte sécheresse. À partir de demain matin, 8h, les masques seront obligatoires en extérieur dans certaines zones très fréquentées de Paris, ainsi qu'en Seine-Saint-Denis, dans les Hauts-de-Seine, le Val-de-Marne et le Val-d'Oise. Il faut dire que l'épidémie semble repartir en Île-de-France. Le taux de tests positifs atteint 2,4% dans la région, contre 1,6% pour la moyenne nationale. Rappelons que le port du masque en extérieur devient obligatoire dans de plus en plus de villes. Hier, c'était par exemple le cas à Marseille ou Carcassonne.
Le gouvernement pensait tenir sa loi pour encadrer et surveiller les terroristes sortis de prison sur son territoire, mais c'est raté.
Le Conseil constitutionnel a en effet censuré une bonne partie des mesures de sûreté parce qu'elles portaient atteinte aux libertés fondamentales. Et ce matin, dans le journal du dimanche, le garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti, assure toutefois qu'il ne baissera pas les bras. Les explications de la journaliste du JDD, Christine Olivier.
Déjà, Éric Dupond-Moretti prend acte de la décision du Conseil constitutionnel et il défend toujours ce texte. Reste que le problème reste entier et d'après lui, ce sont 164 condamnés pour terrorisme qui vont sortir dans les 3 prochaines années, qui posent des vrais problèmes de sécurité parce qu'ils sont considérés pour certains comme extrêmement dangereux. Ces services se sont d'ores et déjà remis au travail pour trouver un autre moyen d'adapter et de renforcer les dispositifs qui existent tout en respectant la décision du Conseil constitutionnel, ce qui est un peu la quadrature du cercle. C'est un problème qui intéresse toute la classe politique et la droite en particulier, parce que Éric Ciotti, par exemple, député Les Républicains, a déjà trouvé la solution, lui. Il a écrit à Emmanuel Macron pour lui demander de modifier la Constitution pour qu'on puisse instaurer une rétention de sûreté avec effet rétroactif, c'est-à-dire qu'elle pourrait s'appliquer aux gens qui ont déjà été condamnés pour terrorisme.
La journaliste du JDD, Christine Olivier, avec Clément Le Saffre.
Et on termine ce journal avec du foot. Alors, on a beaucoup parlé hier de la qualification de Lyon pour les quarts de finale de la Ligue des Champions.
Et hier soir, sur Europe 1, le président de l'OL, Jean-Michel Aulas, s'est félicité de la performance. Il tire notamment un coup de chapeau à son entraîneur, parfois décrié, Rudy Garcia.
Je pense qu'il faut dédier à Rudy Garcia cette performance parce qu'il a été quelquefois contesté, il a été, alors avant même d'arriver à Lyon, on lui a fait plein de reproches qu'il ne méritait pas et Et il a su, dans une année qui est très difficile, remobiliser tout le monde, quelquefois avec, c'est vrai, l'obligation de faire un résultat. On a failli le faire contre le Paris Saint-Germain, on était très proches. Et là, il fallait savoir parler aux joueurs. J'ai participé aussi, évidemment. Mais non, c'est Rudy Garcia et tout son staff qui ont su, avec Juninho, transcender les joueurs. Et c'est vrai qu'après, on a eu une équipe qui était très soudée et qui a su résister à cette équipe de la Juventus.
Et Lyon qui sera donc aux côtés de Paris pour représenter la France en quart de finale de Coupe d'Europe. La France parmi les pays les plus représentés d'ailleurs à ce niveau de la compétition. Et puis concernant le PSG cette fois, mauvaise nouvelle puisque le milieu de terrain Marco Verratti, élément essentiel de l'équipe, sera forfait pour le quart de finale mercredi contre Bergame. La présence de Kylian Mbappé est également très compromise. Toujours en foot ce soir, c'est la finale de la Coupe de France féminine entre les deux meilleurs clubs français, Lyon et le PSG. Et plus grand prix de Formule 1 de Grande-Bretagne sur la grille de départ, le Finlandais Bottas en pôle sur Mercedes devant son coéquipier Lewis Hamilton et le vétéran de la discipline Nico Hülkenberg.
Tout ça est bien complet. Merci Simon Rubin. Vous revenez à 9h. À tout à l'heure.